C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Nous allons parler aujourd'hui de la bataille de Toulouse du 9 juin 721. Alors cette bataille de Toulouse du 9 juin 721 est une grande victoire de l'Aquitaine mérovingienne sur l'invasion musulmane. Il s'agit de la première défaite des musulmans ayant envahi l'Espagne, la péninsule ibérique, en 711, après leur victoire du Guadalete contre les rois visigoths. Les musulmans sont maîtres de la péninsule ibérique et le professeur Gérard Pradalier, lors d'une conférence de patrimoine en Volvestre, a qualifié à juste titre cette bataille de Toulouse comme une bataille censurée, voire volontairement occultée par l'histoire. Effectivement, personne n'en parle. Seule la victoire de Charles Martel, plus tard, en 732, a été enseignée, valorisant ainsi l'esprit centralisateur de la France carolingienne. Pourtant, la bataille de Toulouse est la première victoire de l'Occident chrétien contre l'invasion musulmane. Alors, l'invasion de la Gaule au début du 8e siècle survient dans un contexte conflictuel entre plusieurs blocs opposés. À la mort de Clotaire Ier en 561, le partage du territoire entre ses quatre fils crée une rivalité entre les ducs héritiers. Le royaume du nord oriental s'appelle l'Austrasie. C'est le nord-est de la France actuelle. L'ouest de l'Allemagne aussi. Elle est sous domination du maire du palais, Charles Martel, souverain du royaume des Francs, et désireux de créer une nouvelle dynastie en Austrasie. Il s'oppose à la Neustrie, la Normandie, si vous voulez, et Vallée de la Loire, et ainsi qu'au duché d'Aquitaine, toujours fidèle à la dynastie des Mérovingiens. L'Aquitaine est un duché, presque indépendant dans l'Empire franc. Eudes d'Aquitaine est reconnu roi d'Aquitaine par le roi de Neustrie, mais les forces militaires lui manquent. Et Charles Martel le tient en son pouvoir. À la même époque, les musulmans sont aussi aux portes de l'Indus et pénètrent au Pendjab. Chez nous, Alsam possède une grande armée. Après la péninsule ibérique, il entre par le Pertus en Septimanie, c'est la région de Narbonne. Il prend Saint-Pons, Béziers, Agde, Magdelone, Lodève et Nîmes. Il occupe ainsi donc toute la Septimanie. La prise de Narbonne par surprise en 719 envoie en esclavage femmes et enfants et tue tous les hommes. Les Omeyyades font de Narbonne leur capitale de leur nouvelle province qu'ils ont appelée Arbouna. Les musulmans imposent aux chrétiens et aux juifs la dhimmitude, c'est-à-dire l'autorisation de pratiquer leur religion moyennant des impôts, des taxes et un statut de subalterne dans une société. Ils font, en revanche, venir d'Afrique des familles entières avec femmes et enfants afin de fonder des bases à leur occupation. Toulouse et l'Aquitaine sont des territoires très riches et donc convoités par les Sarrasins. Leur souhait n'est pas seulement d'opérer par des raids en territoire chrétien, mais d'occuper et éliminer les mécréants, faire le djihad par l'épée. En 720, Wali al-Sam prend la ville de Carcassonne, malgré ses murailles, et se dirige vers Toulouse. Mais, se sentant insuffisamment prêt, il retourne et fortifie sa position à Carcassonne. Un an plus tard, dès lors qu'il a réussi à organiser son occupation politique et militaire de la Septimanie, al-Sam s'avance vers la Garonne par la vallée de l'Aude, détruit, brûle tout sur son passage avec une armée composée d'infanterie, de cavalerie, des mercenaires, dont des Gascons et des machines de guerre pour organiser le siège de Toulouse. Dit-on 5000 combattants. Arrivé devant Toulouse, son armée est impressionnante. Alsam, devant les importantes murailles romaines, choisit d'organiser le siège de Toulouse. En mars, il fait amener des milliers de prisonniers et les transforme en terrassiers. Les Sarrasins creusent des tranchées pour préparer l'assaut. Il fait installer du matériel de siège, des armes de jet. La ville possède ses fortifications gallo-romaines, ainsi que 90 hectares de terrain avec des jardins potagers et de l'eau autour des monastères. Mais cette enceinte est très longue et difficile à défendre. Malgré tout, la ville tient bon. Il faut surtout mentionner la vaillance des Toulousains malgré les dégâts et les morts. Les morts sont sur le point de gagner et pénétrer dans Toulouse. Nous sommes en juin 721. Eudes s'est démené pour trouver des troupes afin de défendre l'Aquitaine. Les Austrasiens avec Charles Martel sont engagés dans la guerre contre les Saxons. Ses appuis viendront de Neustrie et de Bourgogne. Il va les chercher. Il arrive avec 7000 hommes. Le nombre de ces hommes est tel, selon les récits, que la poussière soulevée obscurcit le ciel. Le 9 juin, Eudes envoie 2000 hommes entourer les tranchées et cribler de flèches. Par contre, il cache à l'arrière le gros de ses effectifs, ceci derrière la colline de Rangueil. Les Sarrasins ne soupçonnent pas cette ruse. Alsam se persuade, lui, que c'est là toute l'armée des chrétiens. Alors, il fait une sortie en rase campagne pour dégager et briser l'enveloppe de l'armée du duc d'Aquitaine. Il ne dispose pas de la cavalerie, dont les chevaux étaient mis en pâture tout autour du camp. Alsam fait sonner la charge. Les deux armées s'affrontent violemment. Le carnage est terrible. C'est alors que Eudes lâche le gros de ses troupes en réserve et arrive de tous côtés. Le Wali tombe blessé, percé de coups de lance. Le lieu de la bataille se situe entre les remparts de Toulouse et Ramonville. Il s'ensuit un massacre généralisé. Certains textes arabes appellent cet endroit la chaussée des martyrs. La perte de leur chef décourage les musulmans, qui fuient par la via Aquitania. Toulouse est sauvée. Tous les officiers sarrasins sont tués au combat et le Wali meurt en arrivant à Narbonne. Eudes, lui, d'Aquitaine, est blessé par une flèche restée plantée. Il la casse, puis reçoit un coup de lance qui lui transperce la cuisse. Ses cavaliers poursuivent les fuyards jusqu'au col de Norouze. Après la bataille, Eudes renforce l'indépendance de l'Aquitaine. Mais Charles Martel représente une menace à la tête de son armée. Celui-ci choisit un prétexte pour envahir l'Aquitaine, Eudes étant incapable alors de maintenir les incursions musulmanes de plus en plus nombreuses. Qui se souvient de la bataille de Toulouse du 9 juin 721 ? L'histoire de France ne la mentionne pas. Seule la victoire de Charles Martel plus tard en 732 a été enseignée par l'historien Michelet, valorisant ainsi l'esprit centralisateur de la nation, celui de la France de la fin du XIXe siècle. Afin de réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés sur plusieurs sources qui relatent de la bataille. Mais le nombre des combattants est variable, les uns parlant de milliers, d'autres de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de combattants. Alors ces sources les voici. Il y a des sources régionales, méridionales. Ce sont les annales d'Annian, vers 1100, et la chronique de Moissac, vers 818. Il y a aussi des sources carolingiennes, chronique de Frédégère et Paul Diacre, en 789, qui a parlé donc de cette bataille. Et les grandes chroniques de France aussi en ont parlé. Il y a aussi des historiens arabes, vus de ce côté-là, Abd al-Hakam, Al-Faradi, Ad al-Andalus, 1106, qui en ont parlé, et l'anonyme de Cordoue aussi. Il y a aussi des sources pontificales, le Liber Pontificalis, qui relate donc ces événements. Et, enfin, Michelet, l'histoire de France, les Carolingiens, en 1833, qui évoque à peine cet événement. retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.